Religion du monde. Geneviève Delru.
Je suis pas du tout en colère. Je trouve que c'est important que ça sorte, que c'est malheureux que tous ces faits aient existé. Mais puisqu'ils ont existé, il faut pas les cacher. Il faut au contraire les publier pour que, comme pour nettoyer une plaie, on enlève le pus. Eh bien voilà, il faut que ça sorte et que ça assainisse la situation.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Du côté des fidèles, comment répondre à la crise des abus sexuels que traverse l'Église? Si l'institution en effet s'emploie à mettre fin à la culture du silence qui a prévalu pendant des décennies, si elle met en place un protocole pour que la justice civile et canonique soit systématiquement saisie, les catholiques accusent le choc. Certains sont en colère, d'autres pas, comme José, cette mère de famille que nous venons d'entendre. Réparons l'Église, c'est sous cette bannière que le quotidien La Croix et l'hebdomadaire Le Pèlerin ont lancé à la fin du mois de mars une grande consultation auprès de leurs lecteurs et des internautes pour qu'ils s'expriment et aussi qu'ils fassent des propositions sur le site donc des deux journaux. C'est dans ce cadre d'un partenariat RFI La Croix Le Pèlerin que nous allons essayer de mieux saisir en quoi l'Église est abîmée et comment aussi elle peut se réparer, notamment par la prise de parole. Autour de cette table, Guillaume Goubert, directeur du quotidien La Croix, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Samuel Liéven, le nouveau directeur de l'hebdomadaire Le Pèlerin, qui inaugure cette semaine une nouvelle formule à découvrir. À vous deux donc, bonjour et merci. Et puis également, autour de cette table, Elisabeth, 25 ans, ergothérapeute, très active dans sa paroisse à Paris, sa paroisse du 13e arrondissement, c'est ça?
Exactement.
C'est quelle paroisse?
Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles.
Et donc, qui a pris un peu de temps donc sur sa journée de travail pour venir avec nous en studio et nous éclairer. Alors, à noter que c'est une première, cette émission est une émission participative ou interactive, on choisira le mot. En plus du reportage réalisé à Orléans, en ligne, nous entendrons des auditeurs africains suite à l'appel à témoins lancé sur la page Facebook de Religion du Monde. Et puis, on attend aussi le témoignage toujours en ligne de quelques jeunes en province. Alors, on ouvre avec vous, Guillaume Goubert. Alors, on a dû déjà vous le dire, cette consultation, effectivement, ça fait penser un peu au Tour de France hein, d'Emmanuel Macron pour résoudre la crise des Gilets jaunes.
Oui, on peut faire cette analogie. Simplement, nous avons ressenti, La Croix est un quotidien où le courrier des lecteurs a beaucoup d'importance et nous en publions beaucoup, donc nous en recevons beaucoup. Et nous avons été très frappés par l'importance du courrier des lecteurs, particulièrement après l'émission d'Arte sur les violences faites aux femmes au sein de l'Église, aux religieuses en l'occurrence. Et qui n'était pas un contenu auquel nous étions particulièrement associés. Nous avons fait un article pour présenter l'émission et c'est tout. On n'était pas partenaire, on n'a pas participé au contenu de l'émission, donc c'était quelque chose qui était assez extérieur à nous. Et nous avons reçu 110 lettres de lecteurs et de lectrices pour dire l'émotion qu'ils avaient eue autour de cette émission. Et donc, c'est une des choses qui nous a amené à penser qu'il y avait un véritable besoin de parole autour de la crise que traverse actuellement l'Église catholique. Et donc, cette idée d'ouvrir, de jouer notre rôle de médiateur, parce que finalement, vous comme nous, que faisons-nous d'autre que, vous savez, propos recueillis par, de recueillir des propos. Et nous avons cette fonction, les journalistes ont cette responsabilité, cette mission d'assurer une médiation, de permettre à des personnes de s'exprimer. Et donc, voilà, on a mis notre savoir-faire de journaliste au service de l'expression d'une parole au sein de l'Église catholique.
Oui, effectivement, pour mémoire, donc ce documentaire d'Arte sur des religieuses abusées, ça a été un peu comme un coup de massue, parce que pourtant depuis un an quand même, hein, depuis le Chili, la démission des évêques chiliens, bon après l'affaire en Pennsylvanie, enfin tout ce que l'on connaît, on a le sentiment que ça a été effectivement une espèce de coup de massue. Il y a eu un très gros choc dans l'opinion de voir ces religieuses, notamment de la communauté Saint-Jean, puis aussi cette religieuse africaine qui s'est exprimée, bon, le dos à la caméra. On a effectivement comme découvert encore un nouvel aspect de la crise des abus sexuels.
Tout à fait. C'est même presque mystérieux, je trouve, d'essayer de comprendre pourquoi ce contenu-là a eu un tel impact. Je pense que ça a sans doute quelque chose à voir avec l'image qu'ont les religieuses dans la vie de l'Église. Et puis ça, qui est une image à la fois précieuse et fragile. Et puis aussi, parce que c'est ressorti à plusieurs moments de l'émission, que certaines sollicitation, d'ailleurs je crois que ça s'appelle comme ça dans le droit de l'Église, avait lieu pendant la confession, pendant le sacrement de réconciliation. Est-ce qu'il y a quelque chose de très particulièrement choquant? D'ailleurs, au regard du droit de l'Église, c'est un péché très grave pour un prêtre que de solliciter une relation sexuelle pendant le sacrement de réconciliation. Ça s'appelle le péché de sollicitation. Et donc je pense que oui, voilà, ça fait partie des explications du retentissement tout particulier de cette émission.
Samuel Liévin, donc je rappelle que vous êtes le nouveau directeur de la rédaction du magazine Le Pèlerin, qui est un magazine largement centenaire et qui inaugure cette semaine une nouvelle formule. Et donc vous vous associez à La Croix, bon, vous êtes évidemment membre du groupe Bayard comme La Croix, mais vous vous associez à cette opération. Pourquoi ?
Ben parce que finalement, on est un petit peu issu du même geste éditorial, hein, du groupe Bayard, oui. C'est-à-dire traditionnellement faisant le pont entre la société française, son histoire, ses particularités, et l'Église qui est implantée en France et qui est aussi universelle. Et c'est vrai que cette Église, ça faisait déjà des décennies qu'on la savait secouée par tous ces scandales, toutes ces révélations sur les abus sexuels. C'était planétaire, hein, ça, les premières vraiment grosses révélations venaient des États-Unis, puis ça a été l'Europe, puis voilà. Et donc ça fait une quinzaine d'années que nos lecteurs sont habitués à ce noir feuilleton. Et là, c'est vrai que il y a eu évidemment ce film. Juste avant, il y avait l'affaire Barbarin, qui a quand même beaucoup travaillé les consciences, les esprits. C'est quand même le responsable ecclésiastique le plus en vue en France, donc ça a beaucoup travaillé les consciences. Il y a eu le film, évidemment, consacré à cette affaire.
De François Ozon, oui, grâce à Dieu, oui.
Voilà, grâce à Dieu. Et donc, évidemment, nos lecteurs étaient eux aussi, je dirais, de la même manière, travaillés que ceux de La Croix. Donc, ça nous a semblé naturel d'avancer ensemble sur ce front et sans pour autant préempter ni la parole ni les solutions qui peuvent en découler. C'est-à-dire que l'idée était d'abord de vraiment permettre à nos lecteurs au sens large de libérer ce qu'ils ont à dire, parce qu'on pense que c'est vraiment la première étape, ne pas enfermer ce besoin d'expression déjà dans une solution toute faite.
Alors vos lecteurs, 150 000 abonnés, 500 000 lecteurs chaque semaine, du Pèlerin, des lecteurs que vous êtes allés pour cette nouvelle formule tout à fait intéressante, que vous êtes allés rencontrer sur le terrain pendant plusieurs semaines, donc en France, en province.
Oui, alors on est allé rencontrer effectivement des lecteurs de Pèlerin et puis d'autres, proches, ou susceptibles de devenir lecteurs, pour comprendre un peu ce qui aujourd'hui se vit à la fois dans les villes, dans les villages, et puis se joue aussi dans les esprits. Et c'est vrai que l'Église, elle continue, même si la pratique en France c'est 2%, 3%, ça passe presque sous les fourches codines des enquêtes sociologiques. Il y a quand même une attente quand même très forte de l'Église en tant qu'acteur social, en tant que aussi repère dans la société. Donc on attend de l'Église quand même une charge de sens. Et là, il est clair qu'avec ces scandales d'abus sexuels, comme Guillaume l'a rappelé, en plus qui culminent symboliquement durant le sacrement de réconciliation, c'est absolument incompréhensible. Autant pour un croyant que pour un non-croyant qui se dit mais c'est une diablerie, une tromperie historique. Donc je veux dire la charge est énorme et là il faut absolument libérer la parole, faire quelque chose, dire quelque chose pour renverser la table.
Elisabeth, je le rappelais, donc vous êtes ergothérapeute, vous êtes une Parisienne très impliquée dans la vie de votre paroisse aussi, dans le 13e. Comment avez-vous vécu cette avalanche de révélations?
Eh bien, je dois dire avec effroi, je pense que le mot est pesé. Il y a quelque chose d'assez terrible, je parle pour moi, mais aussi au nom de mes amis avec qui on a pu en parler.
De Cato Voice, c'est ça.
Oui, ou même mes amis de ma génération, de découvrir jour après jour presque de nouvelles révélations et de se projeter en disant « mais c'est dans cette église que je vais grandir ». C'est dans cette église que je vais m'engager, c'est cette église qui me forme. Est-ce que je veux vraiment évoluer dans ce milieu-là, ce contexte-là? Donc vraiment un effroi. Je pense que j'ai des amis aussi qui ont été très troublés dans leur foi, vraiment, suite à ces faits-là. Je crois que maintenant, il est intéressant de justement faire émerger des jeunes ces exigences, je dirais peut-être, ces attentes de l'Église pour qu'elle reste cette mère qu'ils aiment quand même malgré tout.
Oui, effectivement, là, la parole est très, très nettement aux jeunes. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire dans cette émission. Merci Elisabeth, on vous retrouve tout à l'heure. Le week-end dernier, à l'occasion de la manifestation culturelle annuelle Les Voix d'Orléans, où il y a des intellectuels et des artistes du monde francophone qui débattent des grands enjeux contemporains, j'ai rencontré en marge de cette manifestation deux jeunes du diocèse, Antoine et Anne, tous deux donc très impliqués dans la vie de l'Église. Alors Anne a 21 ans, elle accomplit son service civique dans la pastorale des jeunes, elle est également au Socon catholique. Alors Anne est en colère, oui effectivement, surtout après avoir vu le documentaire de la chaîne Arte sur les religieuses, mais elle nous dit « ma foi tient bon ». On l'écoute.
Je ne peux pas dire que cela a ébranlé ma foi, parce que ma foi concerne ma relation à Dieu et pas ma relation aux hommes qui composent l'Église directement. Concernant tous les abus sexuels sur mineurs, c'est vrai que ça a provoqué une grande incompréhension, notamment face au silence qui a subsisté pendant des années autour de ces abus, l'incompréhension aussi face aux décisions. Je peux comprendre que de tels événements aient pu beaucoup déstabiliser les évêques qui étaient en poste, qui n'aient pas su nécessairement réagir de la manière la plus appropriée. Après, c'est vrai que j'attends leurs explications.
Est-ce que tu attends une réforme de l'Église ? Puisqu'on dit que c'est quand même quelque chose de systémique. Bon, le système, cette culture du silence, par exemple, et puis aussi la figure du prêtre, ce qu'on appelle le cléricalisme, ce qui peut induire des abus de pouvoir, et que les abus sexuels sont liés effectivement aussi à des abus de pouvoir.
Dans la lettre qui avait été adressée fin août ou début septembre à l'Église catholique tout entière, j'étais d'accord avec le pape lorsqu'il a dit qu'il fallait faire attention aux dérives du cléricalisme, dans la mesure où il est important pour le fidèle de se rappeler qu'un prêtre est aussi un homme de Dieu, mais aussi un homme. Il est également humain et il peut faillir, il peut faiblir. C'est vrai que j'attends, peut-être pas une réforme, mais c'est vrai, une plus grande attention de la part et des fidèles et des prêtres quant au comportement des uns et des autres. Mais aussi, je me suis fait plusieurs fois la réflexion qu'il fallait faire attention effectivement à une potentielle paranoïa, dans la mesure où je me dis, pour un groupe de prêtres qui tombent, il y en a également qui mènent leur ministère de manière loyale, en étant fidèles à ce en quoi ils croient, fidèles aux valeurs de l'Église, et que cela, il ne faut pas les oublier. Ni les néfriser.
Alors, Guillaume Goubert, comment réagissez-vous au propos de cette jeune fille ?
Ça me paraît très 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 juste. Oui. Le ton est juste, c'est-à-dire qu'il y a, enfin, je le ressens comme tel. Je partage la manière qu'elle a de dire les choses. Il faut regarder cette réalité en face. Moi, je pense beaucoup, notamment dans notre travail de journaliste, au verset de l'Évangile qui dit « la vérité vous rendra libre », c'est-à-dire que dans l'Évangile de Saint Jean, parce que, effectivement, essayer de cacher les choses, de les dissimuler, on voit bien à quel effet ravageur cela peut avoir lorsque les choses sont dévoilées. Donc il faut regarder cette réalité en face, il faut accepter de l'affronter, aussi douloureux que ce soit. Et en même temps, il faut penser aussi à un autre verset évangélique que j'aime beaucoup, c'est dans une épître de Paul où il est dit « Nous portons ce trésor dans des vases d'argile ». C'est-à-dire que nous sommes dépositaires, nous catholiques, d'un trésor, mais effectivement, nous sommes, nous, d'une grande fragilité. Et il faut essayer de toujours sauver ce trésor de toutes nos faiblesses, de toutes nos fautes. Et ça, il faut le faire ensemble. C'est là où l'idée de lutter contre le cléricalisme, c'est surtout l'idée que tous les croyants, tous les fidèles, toutes les personnes engagées dans la vie de l'Église doivent être impliquées ensemble dans cette recherche de la vérité et dans cette volonté d'être au service de ce trésor et de rien d'autre. Et donc, ça veut dire effectivement que même si les rôles, les fonctions, les missions sont différentes entre les croyants, qu'il n'y ait pas de rapport de pouvoir qui peuvent aboutir à de telles déviances.
Alors, on va retrouver en ligne Emmanuel, qui est parisienne, qui ne pouvait pas être dans ce studio parce qu'elle travaille dans une coopérative agricole. Bonjour Emmanuel, vous avez 28 ans, vous avez fait une école de commerce, vous êtes comme Elisabeth, que l'on va entendre dans quelques instants, très engagée dans l'Église. Bon, quand nous avons parlé ensemble tout à l'heure, vous m'avez dit d'abord, pour moi c'est grave. Bon, première chose, la situation est grave.
Tout à fait, et dans ce sens-là, je rejoins ce qu'on a entendu jusqu'ici. Il y a plusieurs problèmes en fait qui sont soulevés. Il y a le problème qui a été dit de l'omerta, cette culture du silence qu'il faut changer. Il y a aussi des abus de pouvoir dans le cas des religieuses. En fait, ce qui est extrêmement grave, c'est que c'était en fait leur directeur spirituel qui ont profité de leur situation pour abuser en fait de ces religieuses. Et à ce problème-là se rajoutent les viols, les abus sexuels, etc. Donc on a en fait plusieurs choses qui sont cumulées, qui amènent à des situations catastrophiques, et du coup voilà, ça remue énormément l'Église, mais je pense qu'en effet le devoir de vérité, le travail de vérité, fait du bien aussi.
Alors sur la question de la sexualité, vous avez un point de vue, bon, qui est votre point de vue, qui n'est peut-être pas partagé par tous, mais vous dites il faut revenir à la théologie du corps de Jean-Paul II. Alors exprimez-vous là-dessus. Et quel rapport avec la crise actuelle ?
Tout à fait. Alors en fait, il faut comprendre que la crise actuelle, en fait, elle est, à mon sens, elle a des germes et des racines assez anciennes. Quand on voit les premiers problèmes de pédophilie, ça date des années 60, 70. C'est malheureusement pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le fait de le faire éclater au grand jour, le fait que ça fasse scandale. Mais si vous voulez, j'ai trouvé récemment dans les médias donc des journalistes qui, à l'inverse de moi, donc s'en prennent justement à la théologie du corps comme la responsable, alors que je pense qu'au contraire, si vous voulez, la théologie du corps de Jean-Paul II, qu'il a commencé à travailler dans les années 80 et qui, à mon sens, est encore loin d'être vraiment exploitée et utilisée comme il faut à tous les niveaux et de manière très concrète, elle est en fait encore trop méconnue et je pense du coup qu'en fait il y a là-dedans des outils pour arriver à répondre à cette crise sur le plan purement, là je parle de la question de la sexualité. Je pense qu'il y a plein de choses dans cette théologie du corps sur comment bien vivre sa sexualité en tant que célibataire, en tant que personne mariée, etc. et que c'est un vrai trésor.
Oui, alors ça veut dire
encore un travail à faire dessus.
Cela veut dire que c'est une remise en cause ou au contraire pas du tout une remise en cause du célibat, Emmanuelle?
Alors pour moi, c'est pas une remise en cause du célibat. En revanche, et on voit bien parce qu'il y a eu des abus, ce qui est sûr, c'est que l'Église, jusqu'ici, elle n'a pas toujours bien su aider les prêtres dans leur célibat, leur donner les moyens, si vous voulez, de vivre ça de manière épanouie. Et c'est là qu'il reste un travail à faire. Je pense que l'Église commence justement avec ces scandales à s'en rendre compte et à faire un travail. C'est des sujets qui ont été abordés aux précédentes réunions au Vatican. Mais voilà, il reste encore du travail, mais je pense qu'il n'y a pas de remise en cause du célibat, c'est-à-dire qu'on pourrait parler du célibat, mais toute personne célibataire n'est pas forcément un prédateur sexuel en puissance,
bien
ou quelqu'un.
Sûr.
Enfin voilà, il faut l'avoir en tête, donc il faut trouver des vraies solutions à des vrais problèmes. Et donc il y a tout un travail encore à faire, mais moi je suis assez confiante dans le sens où ce travail de vérité permet d'affronter les problèmes en face. Et permettra d'essayer d'y trouver des solutions.
Je vous remercie. Merci Emmanuel pour votre intervention. Merci. Alors, Elisabeth, comment réagissez-vous à la théologie du corps de Jean-Paul II? Ça vous dit quelque chose ou pas?
C'est
votre génération
peu,
quand même,
bah,
si non?
Un petit peu quand même. Il y a pas mal d'initiatives en ce moment, notamment ce qu'on appelle les forums Waouh, qui sont des week-ends axés sur la vulgarisation de la théologie du corps de Jean-Paul II pour les jeunes ou pour toute personne. Donc c'est quand même quelque chose dont on entend un peu parler et qui suscite beaucoup d'émerveillement.
Qu'est-ce que l'on dit chez vous, entre jeunes, notamment à Cato Voice? Qu'est-ce que l'on dit sur le célibat des prêtres, sur toutes ces questions de sexualité?
Oui, je rejoindrai les propos d'Emmanuel, c'est que finalement, la pédophilie, la pédocriminalité ne concerne pas toutes les personnes célibataires, ça c'est quand même assez évident, et de la même manière, le mariage ne va pas venir résoudre ce problème de pédophilie pour une personne.
De la prédation sexuelle, oui.
C'est vraiment une vision du mariage assez malheureuse. Que disent les jeunes du célibat du prêtre? Dans les jeunes que je côtoie, il n'y a pas tellement de remise en question. Il y a une vraie vigilance, en revanche, sur comment est-ce que je me positionne vis-à-vis du prêtre de ma paroisse, vis-à-vis de mon curé, etc. Il y a une vraie attention portée aussi sur, finalement, comment est-ce que l'Église aide nos prêtres à vivre leur célibat. Ensuite, on reconnaît quand même derrière ce don qu'ils font, une disponibilité de temps et d'esprit, je dirais, qui nous aide, nous, quand les prêtres sont là pour nous accompagner, etc.
Guillaume Gobert, sur cette question de la théologie du corps de Jean-Paul II, vous vous souvenez comme moi de la tribune de Christine Pedotti et d'Anne Soupa, donc les cofondatrices du comité de la Jupe, qui disent clairement, finalement, tout ça, c'est un peu, je résume, hein, je caricature un peu, mais c'est la faute à Jean-Paul II et sa théologie du corps, qui est très peu connue du reste. Hein.
Moi, ça me paraît quelque chose de très réducteur comme propos. La question de du rapport des catholiques à leur corps est certainement une question qui n'a pas encore été suffisamment creusée. Le pape Jean-Paul II a eu l'audace, effectivement, d'être le premier parmi les papes à aborder ça. C'était principalement pendant un cycle de catéchèse du mercredi matin lors de l'audience générale. Donc, il avait vraiment une volonté de partager ça avec le plus grand nombre. C'était d'une grande audace. Ensuite, il y a probablement des choses à mieux formuler, à mieux faire entendre. C'est un travail qu'il faudrait prolonger. Et pour prolonger sur la question du célibat sacerdotal, moi je pense que le célibat des prêtres a une grande valeur. C'est quelque chose que l'Église a reçu de toute son histoire. En même temps, je pense qu'il serait une bonne chose, comme c'est le cas d'ailleurs dans d'autres lieux de l'Église, je pense aux Églises orientales, qu'il y ait également des membres du clergé mariés, parce que ça mettrait, comment dire, plus de diversité dans le paysage sacerdotal, et ça amènerait les différentes manières de vivre le ministère sacerdotal, pour les uns comme célibataires, pour les autres dans le cadre à côté de leur vie familiale ou en lien avec une vie familiale, et je pense que ce serait certainement une bonne chose pour le climat humain au sein du clergé.
Je vous propose la lecture de quelques auditeurs qui nous ont écrit d'Afrique suite à cet appel à témoins. Alors je lis le courrier de Miguel Capitao. Pourquoi le pape n'oblige-t-il pas ses prêtres à se marier? Ainsi, ça pourrait masquer, je sais pas, le terme est peut-être à revoir, masquer certaines choses. Alors ça, c'est Hilaire Kilongo. L'Église traverse une crise qui est d'une grande importance, donc d'une grande gravité. Cette crise va aider le pape François à mieux mener des réformes pour adapter l'Église à la réalité du monde actuel. Et puis après, il continue, malgré tous les abus, je crois qu'il y a pire dans d'autres églises, alors je ne sais pas auxquelles il pense, mais on en parle moins. Et moi, j'aime le courage des évêques et du pape. Mohamed Wekilou Bakari, l'entre-soi, on pourrait effectivement en reparler, hein, l'entre-soi doit être banni de l'église. Il faut autoriser les prêtres à se marier, même les prêtres homosexuels. Alors là, évidemment, ça serait une très très grande réforme. Et puis, Elvis Bélé Zuma, alors qui est plein d'espérance, la crise actuelle est très douloureuse pour nous catholiques, alors ne perdons pas la foi, car les voies du Seigneur sont insondables. Et puis aussi un dernier mot, celui de Tierno Sadouba, la profondeur du mal des prélats exhibé par voie de presse, alors ça c'est pour nous je pense, et voilà, et la suivante, la crise que traverse l'Église ne peut se résoudre dans un conclave à minima. Et puis enfin, mamie Jean-Olivier, le Vatican devrait faire des réformes afin que les églises soient plus vivantes. Alors ça, c'est encore un autre sujet. Samuel, je vois que vous levez le doigt avant d'écouter Jérémy.
Non, ce qui est surprenant, c'est que on est sur quand même un autre registre que ce qu'on a pu lire nous. Il y a 2600 participations, réponses qui sont remontées sur nos sites internet de la Croix et du Pèlerin. Et c'est vraiment la marque pour le coup. Ce qu'on lit en général, c'est qu'il n'y a pas de grand soir. Les gens savent qu'il n'y aura pas de grand soir. Il n'y a pas la grande réforme institutionnelle, j'allais presque dire technique, de l'Église qui va tout régler. Il y a une assez Finalement, ceux qui nous écrivent ont fait jusqu'à présent preuve d'une assez grande maturité de chrétiens qui sont depuis longtemps formés, qui sont impliqués dans les communautés, qui savent que c'est plus. Alors dans un premier temps, il y a eu une vague de d'écœurement, d'incompréhension, le choc, et ensuite, voilà, on regarde ce qu'on a dit tout à l'heure.
Il y a le sursaut. Ouais.
Voilà, un sursaut. On regarde la réalité en face et on propose presque plus ces services pour accompagner, pour dialoguer. Là, c'est intéressant parce qu'on est sur des églises qui sont beaucoup plus jeunes. Il y a une forme d'exigence, dont on somme l'institution de tout changer du jour au lendemain pour que ça s'arrête, parce que c'est insupportable. Et c'est là qu'on se rend compte que François, en tant que pape, affronte une situation réellement internationale. C'est d'ailleurs le signal qu'il a envoyé en faisant venir les évêques à Rome. C'est-à-dire, voilà, là, ce sont des sociétés essentiellement occidentales, nord-américaines, européennes, qui sont concernées. On met l'Australie, finalement, dans le même monde. Et tout le reste, effectivement, va encore peut-être remonter, et ce sont des situations encore différentes, une perception, on vient de l'entendre, encore différente, et on prend bien la mesure en écoutant ces réactions de la portée universelle de cette crise.
Oui, et des résolutions effectivement totalement différentes. Tout récemment, j'ai fait une interview avec le président de la conférence de République centrafricaine, quand j'ai posé la question, si un jour vous avez un prêtre, vous savez qu'il a commis des abus, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a un signalement qui est fait à la justice civile? Je m'attendais à la réponse, étant donné la situation situation déjà très délétère hein, de la République centrafricaine, il m'a dit, mais non, nous, on règle ça de façon communautaire. Bon, ça, c'est une parenthèse, mais c'est évident que les questions culturelles comptent énormément. En attendant, Jérémy, en ligne de Lyon, Jérémy ?
Bonjour.
Bonjour, Jérémy. Alors, Jérémy, vous avez 29 ans. Vous êtes à la communauté d'Emmanuel pour l'instant, pour une année, c'est ça ? Expliquez-nous ce que vous faites à la communauté d'Emmanuel.
Alors tout d'abord, merci de votre appel. Je suis heureux de donner du temps pour votre émission.
Merci.
Donc j'ai en effet 29 ans, je suis catholique et j'ai pris une année sabbatique de mon travail, sans salaire, pour rejoindre une équipe missionnaire itinérante. Donc la communauté de l'Emmanuel est une communauté de laïcs et de prêtres, voilà, qui donne du temps en fait pour les gens. Nous, notre équipe est un peu particulière. On a tous pris un an pour nos boulots, mais généralement les gens sont dans le monde, travaillent, ont un travail, voilà, et se rendent disponibles pour l'Église. Donc nous, notre équipe, nous accompagnons 6 paroisses. Nous sommes des laïcs et des religieux, avec cette idée d'apprendre aux paroisses à ouvrir les portes pour avoir un double mouvement, à la fois d'aller à la rencontre des gens, mais aussi d'accueillir mieux dans nos églises.
Pour vous, cette crise, elle ne remet pas en cause ni votre implication, ni votre foi, car vous dites, bon, si effectivement j'ai exprimé dans un premier temps de la colère, aussi de la tristesse, eh bien, je sais que dans le monde entier, il y a des catholiques qui œuvrent pour, j'allais dire, pour le bien commun.
Tout à fait. Tout d'abord, ma réaction, ça a vraiment été la colère par rapport à ces abus, aux abus qu'il y a pu avoir, les abus sexuels, et puis aussi cette lenteur de l'institution qui a mis du temps à agir, cette incompréhension des victimes, de moi-même aussi, par rapport à ce qui est grave et ce qui a pu se passer. J'ai eu l'occasion d'écouter personnellement une victime lors de rencontres qu'on peut faire dans la rue, et vraiment cette colère et cette tristesse qui est venue. Mais c'est vrai que j'ai espoir dans l'Église, parce que malgré tous ces scandales, il y a des hommes et des femmes, des laïcs, des religieux qui dans le monde entier se mettent au service de ceux qui sont dans la pauvreté, la tristesse, la maladie, le deuil, tous ceux qui sont en paroisse auprès des gens, auprès des pauvres, tous ceux qui, comme à la suite de Mère Teresa, sont allés auprès des plus pauvres. Et puis on sent quand même un mouvement dans ces institutions qui petit à petit mettent en place des solutions concrètes pour que tout ça s'arrête.
Je vous remercie, Jérémy, pour votre témoignage. Je me tourne vers vous, Elisabeth. Vous vous retrouvez complètement dans ce que dit Jérémy ?
Complètement. Et on attend de l'Église qu'elle ait des œuvres qui soient cohérentes avec ce message-là, et notamment des œuvres au service donc, des plus pauvres et des plus fragiles. Et donc, c'est ça, les initiatives qui peuvent se créer en paroisse dans ce sens sont vraiment, je trouve, les bienvenues et nous motivent.
C'est d'autant plus intéressant ce qu'on entend de la part d'Elisabeth et de Jérémy que, effectivement, vous parliez des tournées qu'on avait faites dans les régions il y a quelques mois. C'est vraiment ce qui nous est remonté.
Oui.
C'est-à-dire un véritable retour au local, un désir de local qui passe par toutes les dimensions et aussi bien au niveau des communautés, la conviction que c'est ici et maintenant que ça se joue. Qu'on n'a pas tout à attendre d'une superstructure qui va d'en haut décréter que maintenant ça se passera comme ça et pas comme ça. Et ce désir d'engagement, il est vraiment profond et on le voit là prendre corps avec ce que vous venez de dire.
Religion du monde, Geneviève Delru.
Tout à l'heure, je vous parlais donc d'un reportage que j'ai effectué le week-end dernier à Orléans. On va entendre maintenant Antoine. Alors Antoine est un petit peu plus jeune qu'Anne, il a 18 ans, il est en classe de terminale, à Orléans toujours. Il anime des camps de jeunes au sein du diocèse, sa famille est une famille très pratiquante. Il a même été le page de Mathilde l'an passé, donc Mathilde Edet-Gamassou, qui incarnait la Jeanne d'Arc 2018 lors des fêtes joanniques. Alors, comment a-t-il réagi, c'est la question que je vais poser à la série de révélations donc sur les abus sexuels dans l'Église. Alors que son diocèse, effectivement, a été tout à fait touché. Il y a eu Monseigneur André Faure, l'ancien évêque d'Orléans, a été condamné en novembre dernier à 8 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'actes pédophiles. Qu'un prêtre a été condamné à 2 ans ferme. Et puis aussi, alors là, c'est une autre histoire, un jeune prêtre, le père Pierre-Yves Fumery, s'est pendu, lui, suite à l'ouverture d'une enquête pour comportement inapproprié, ce sont ses termes, sur jeune fille de 13-14 ans. Et l'affaire a été ensuite classée sans suite. Alors, on écoute Antoine donc sur les réactions qu'il a eues après les cascades de révélations sur les abus sexuels.
Alors apprendre qu'une personne a commis des actes sur des jeunes enfants, c'est toujours très difficile, surtout quand ce sont des prêtres, parce que des prêtres, on les appelle mon père. Donc il faut qu'il y ait une certaine proximité. Et en effet, bah là, cette proximité n'a pas été respectée. Donc en effet, depuis quelques années, les évêques ou les papes ont essayé de cacher cette vérité. Et voilà, depuis à peu près Benoît XVI, cette vérité ressort, cette vérité est légitime, mais il ne faut pas oublier que l'Église reste une institution et qu'il faut la défendre aussi, et qu'on ne doit pas la détruire par ses actes. Ce n'est pas parce qu'une infime minorité de prêtres, qui restent des êtres humains quand même, il ne faut pas l'oublier, ont commis des actes irréparables, ce n'est pas pour cela que l'Église doit s'effondrer. Et je dirais plus que c'est là, dans ces moments-là, qu'elle doit se ressouder.
Alors, Guillaume Goubert, on a pu comprendre à travers les propos d'Antoine qu'il sent que l'Église, l'institution, est attaquée, fragilisée. Il m'a même parlé, ça c'est pas dans l'entretien qu'on a entendu, mais voilà, qu'il sent une division même au sein de l'Église, que tout le monde n'est pas d'accord sur la ligne à tenir.
Oui, on traverse une crise, donc dans les moments de crise, il y a des moments d'hésitation, des moments de tension, des moments où on débat pour savoir ce qu'il faut faire pour bien faire. Je pense qu'il faut pas être, dans l'angoisse par rapport à ça. Je pense que c'est un moment à vivre par lequel nous devons passer pour repartir sur d'autres bases. L'opération que nous avons engagée avec le pèlerin, on l'a appelé « Réparons l'Église » en référence à une phrase de, selon la tradition, qu'a entendu François d'Assise, qui a entendu Dieu lui dire « Va et répare mon Église ». Et il a commencé par bricoler dans une petite chapelle en croyant qu'il s'agissait de remettre des pierres les unes au-dessus des autres. Et puis ensuite, il a compris que, voilà, on n'est pas là pour changer l'Église, pour réinventer l'Église. On est là pour faire en sorte que cette institution, qui est bien, bien, bien au-delà de nos réalités humaines, retrouve la paix, retrouve un chemin de vie, en fait. Elle a été atteinte par des forces maléfiques, des forces de mort, et il faut qu'on reprenne le dessus. Et oui, ça passe par beaucoup de débats, beaucoup de discussions qui peuvent être inconfortables. Alors sur l'argument de dire il y a des attaques contre l'Église, c'est vrai, elles existent. La question est que malheureusement l'Église toujours faire attention qu'on emploie le mot Église, parce que l'Église c'est quelque chose de très très vaste. Ça comprend le pape, les évêques, les prêtres, les laïcs, etc. Il faut pas, quand on dit l'Église, trop souvent on parle des structures institutionnelles. Bon, il y a des attaques contre les structures institutionnelles de l'Église. Si ces structures n'avaient pas, à certains moments, hélas, contribué à dissimuler un certain nombre de choses qui n'auraient pas dû être dissimulées, on ne pourrait pas aujourd'hui attaquer l'institution ecclésiale. Donc il faut accepter de faire ce travail de ménage, ou pour employer un terme plus ecclésial, un travail de purification. Voilà, il faut qu'on fasse notre examen de conscience et puis qu'on reparte de l'avant.
Alors, je vous propose de poursuivre justement sur ces tensions qui peuvent traverser actuellement l'Église et des points de vue différents qui la traversent. Là, on pense au cardinal Barbarin, donc qui a été condamné à 6 mois avec sursis, mais qui fait appel. Donc, l'issue du procès, on ne la connaît pas encore. Alors, je vous propose de poursuivre avec justement Antoine, pour qui cette affaire Barbarin, ce procès Barbarin, est finalement un procès qui vient des médias. On l'écoute.
Alors en effet, je pense que derrière le procès Barbarin, en fait, c'est le procès de l'Église qui est en jeu au tribunal, parce que l'affaire Barbarin a été classée sans suite en 2016. Ce procès n'avait pas lieu d'être, puisqu'il avait été classé sans suite. Et surtout, comment le tribunal peut être imperméable quand le procès médiatique a déjà fait son travail et a déjà rendu son jugement. Les juges ont été poussés par l'opinion publique qui était contre Barbarin, et ça les a poussés à donner une grosse peine. Et le deuxième problème qui se pose, d'après moi, c'est que le père Prénat, qui a été accusé de pédophilie il y a quelques années et qui n'a pas été encore jugé, c'est-à-dire qu'il est encore présumé innocent par la justice. Or, le cardinal Barbarin, lui, a déjà été jugé. Et pour moi, ça, ce n'est pas normal. C'est d'abord au père Prénat d'être jugé, parce que ce jugement est légitime. Et pour moi, le procès Barbarin est illégitime dans ces conditions-là.
Alors, est-ce que vous estimez, comme Antoine, que le procès du cardinal Barbarin est un procès illégitime, ou au contraire, que la peine, même si c'est une peine, je dirais, presque symbolique quand même, que cette peine est un message hein, pour l'ensemble des responsables d'église, en leur disant que très clairement, voilà, maintenant, si vous n'agissez pas, voilà ce qui se passera. Samuel Yeven.
Oui, il y a pour une part des éléments de bon sens, là, quand même, dans la réaction qu'on a entendue. Il y a ce sentiment que celui qui a commis directement le crime, lui, il attend encore.
Ça procède à l'envers, oui.
Et qu'il est à l'envers. Alors, ça, c'est légitime pour le coup aussi comme réaction. Maintenant, voilà, il y a un fonctionnement de la justice qui a d'ailleurs entre-temps été amendé, c'est-à-dire que c'est la question de la prescription qui techniquement pouvait orienter le procès d'un côté ou de l'autre. Et là, il est bon quand même qu'on puisse réexaminer aussi, du coup, certains comportements qui sont pas forcément appropriés pour le coup du point de vue concernant la hiérarchie, qui a quand même une responsabilité. Évidemment, le crime n'est pas direct. Hein. Donc, de ce point de vue-là, c'était quand même bon de pouvoir réexaminer ça, et effectivement, c'est le cardinal Barbarin qui prend. Symboliquement, c'est très lourd.
Il prend pour tout le monde.
Mais ça envoie quand même un signal très clair à une hiérarchie au niveau mondial que, voilà, désormais, il va falloir se conduire autrement. Alors ça, effectivement, le cardinal Barbarin, de ce côté-là, prend cher.
Oui. On repart à Orléans, où, comme je vous le disais, donc le week-end dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fidèles, des jeunes dans l'ensemble, et puis aussi un prêtre, le père Julien Dumont, qui a 40 ans, qui a été ordonné à l'âge de 28 ans, et qui est prêtre dans la banlieue est d'Orléans. Alors, on sait très bien que ce diocèse, comme je le rappelais tout à l'heure, a été particulièrement touché, et je lui ai demandé comment il avait vécu lui aussi toutes ces révélations, et puis la crise de son diocèse. On l'écoute.
Moi, personnellement, j'ai été évidemment très affecté par ces histoires-là, d'autant que les prêtres qui ont fait l'objet d'un procès, et dont un qui est encore en cours, je les connais très bien. Donc on ne peut être qu'affecté à la fois par ces histoires, par ces scandales, mais sans désespérance. Et je suis, en tout cas, moi, à la fois très affecté, mais en même temps rempli d'espérance.
L'Église a vécu d'autres crises, effectivement, des crises profondes. Celle-ci est quand même particulière, non ?
L'Église a vécu beaucoup de crises depuis 2000 ans. Celle-ci est sans aucun doute particulière. Il reste que Dieu est à l'œuvre et que l'Église est fondée sur le Christ et que, à ce titre, Dieu n'abandonne pas son Église et il vient nous faire réagir pour rendre justice d'une part et d'autre part la purifier de ces grands scandales. J'essaye très humblement d'avoir une position surnaturelle. Je crois également que nous sommes à la fin d'une époque et que les procès qui sont en cours sont aussi le procès d'une génération qui n'a pas voulu entendre aussi l'enseignement de l'Église sur les questions de sexualité, sur les questions du célibat, elle-même des prêtres, sur la question de la chasteté. Voilà. Un prêtre, un vieux prêtre, me disait qu'il n'avait jamais entendu parler de ce mot dans le cadre de sa formation dans les années 70. C'était très, très tabou. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est le procès d'une génération. Entendez bien que notre génération n'est pas meilleure que la précédente, mais je crois qu'elle a reçu une colonne vertébrale. Elle est, je pense, dans sa formation, beaucoup plus structurée, en tout cas sur ces questions morales.
Là, vous tenez un discours, j'allais presque dire, à contre-courant de ce que l'on peut entendre aujourd'hui, à savoir que la chasteté, est-ce que c'est utile ? Le célibat, effectivement, est-ce que c'est utile pour être un bon prêtre ? Là, vous vous situez à contre-courant.
Effectivement, j'ai bien conscience que la question du célibat des prêtres est une question qui est remise en cause aujourd'hui. Je crois pour ma part que c'est un grand trésor. Je le vis comme cela, avec mes fragilités, avec mes faiblesses, mais je vis cela comme un grand trésor, comme une grâce que je reçois aussi, que je demande à Dieu et que je reçois, comme une très grande disponibilité de cœur, d'esprit, de temps à l'égard de mes contemporains, comme une vie donnée, très, très, très humblement, que je remets chaque jour entre les mains du Seigneur. Mais je crois que c'est un grand trésor. Ouais.
Père Julien Dumont, un prêtre, un jeune prêtre de votre diocèse s'est donné la mort après un signalement. Comment vous avez vécu cette affaire ?
Ça a été très, très difficile à traverser. C'est une histoire très grave qui nous a beaucoup affectés, nous les prêtres. et qui a fait que ce prêtre était innocent après enquête. Et donc, ça nous a rappelé de manière très vive qu'il faut toujours conserver la présomption d'innocence tant que la justice n'est pas passée. Pour nous, c'est très important. C'est aussi l'avis du pape, manifestement, qui, tant que les voies de droit n'ont pas été épuisées, demande à ce que la présomption d'innocence soit conservée.
Là, vous évoquez l'affaire Barbarin.
Là, bien sûr, j'évoque l'affaire Barbarin.
Et est-ce que pour vous, aujourd'hui, être prêtre, vous vous occupez de jeunes en plus, est-ce que vous sentez une sorte de regard de suspicion, ou est-ce qu'au contraire, vous avez le sentiment que la confiance des parents, et puis des jeunes, sont des adolescents, demeure?
Oui, très certainement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une forme d'autocensure nous-mêmes, qui parfois peut manquer de spontanéité. Et pour ma part, c'est toujours un peu difficile à vivre, mais je pense que c'est inévitable aujourd'hui. En revanche, je crois que les parents nous font confiance et que tout ce qui a été mis en place depuis maintenant quelques années pour rétablir cette confiance, hein, pour que l'Église soit une maison sûre, porte ses fruits.
Qu'est-ce que vous appelez autocensure? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Qu'est-ce que vous faisiez avant que vous ne faites plus aujourd'hui?
Eh bien, une chose très simple, c'est-à-dire que je serre les mains, je n'embrasse plus. Alors les enfants, c'est difficile quand ils viennent se précipiter sur vous pour à la fin de la messe. Ça m'est très difficile de les repousser pour leur serrer la main. En revanche, les ados, je leur serre la main.
Alors, petit tour de table. Sur les propos, moi je retiens la question du procès d'une génération. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non, Samuel Lieven? La question du célibat, la présomption de la présomption d'innocence, et puis aussi ces prêtres aujourd'hui sur qui, bon voilà, le regard se porte parfois avec suspicion et c'est dur à vivre.
Oui, c'est vrai que les prêtres, bon, ils ont quand même la pression, hein. Il y en a peu, on attend énormément. Là, en plus, on a évoqué le cas d'un suicide. Alors, c'est vrai que ça existe, hein. Il y en a chaque année. C'est au-delà, je dirais, des affaires qui nous occupent là dans cette émission de pédophilie. Il y a aussi le drame, le grand drame de la solitude, hein, du prêtre, qui est une réalité. Dans nos titres, on a souvent pu le traiter. Et c'est clair que les prêtres eux-mêmes, du coup, prennent en pleine figure ces scandales, et ça remet, ça ébranle, si ça ébranle la foi des fidèles, vous imaginez bien que chez le prêtre, ça ébranle
beaucoup,
non seulement sa foi, donc sa vocation, donc l'engagement de toute une vie misée sur la même case. Donc ça peut aller très très loin. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et de ce côté-là, je trouve que ces propos sont justes, intéressants. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire qu'être une génération plus armée, mieux armée en termes de formation? C'est clair que les séminaires ont fait quelques efforts. Après, ça dépend aussi des personnalités de chacun. Moi, j'évite de raisonner quand même en termes de génération. Qu'il y aura une génération plus fragile, une génération plus forte. Je pense que c'est voilà, là-dessus, il faut se garder de généraliser.
Oui, Elisabeth.
Oui, pareil pour la question de la génération. Je rejoins aussi les propos. La question de la solitude des prêtres est aussi quelque chose qui est, je trouve, mieux évoqué dans les séminaires, et on voit émerger des séminaires qui sont vigilants justement à envoyer des prêtres deux par deux dans des presbytères pour éviter qu'ils soient seuls. Et donc il y a une vigilance, je trouve, qui est mise pour ça. Et je suis assez marquée aussi de voir que finalement la réaction des prêtres qui sont regardés dans la rue, qui sont parfois insultés dans la rue, etc., c'est pas l'enfouissement. Et du coup, ça nous oblige aussi à ne pas enfouir. Finalement, notre réaction ne doit pas être l'enfouissement, ça doit être évidemment la remise en question, faire émerger des moyens concrets, mais aussi garder cette Église en sortie à laquelle le pape François nous appelle tant, à laquelle il appelle tant les jeunes dans la dernière exhortation apostolique qu'il a écrite aux jeunes.
Guillaume Gobert, procès d'une génération, la question du célibat, on l'a évoqué tout à l'heure, la question aussi, effectivement, de cette solitude du prêtre, cette suspicion sur lui actuellement.
Sur la question de la génération, des générations, je suis très mal à l'aise avec ce qu'on a entendu. Je suis un peu surpris, même. Je pense que ce qui fait, justement, une chose qui fait la force de l'Église, c'est ce sens de l'histoire, de la solidarité des vivants et des morts, des saints et des pécheurs. Et que dire, ben voilà, nos aînés, ils n'ont pas su faire, nous, on va savoir faire. Je trouve que c'est, dans le meilleur des cas, assez optimiste. Ensuite, se poser des questions sur la façon dont est organisée l'Église, sur le rôle des prêtres au sein des communautés, etc. Tout ça est légitime, et nécessaire même. Mais je pense que nous savons tous, nous, catholiques, ce que nous devons à des prêtres. et que ce sont des figures qui nous ont aidés, qui nous ont fait grandir, qui nous ont permis d'accroître notre intelligence de la foi, mais notre intelligence
du cœur aussi, oui.
Notre intelligence du cœur, tout à fait. Et que donc, je pense qu'il faut être très conscient que faire le mettre en question le cléricalisme, ce n'est pas faire le procès des prêtres.
Oui, je rejoins tout à fait ces propos. Et moi, j'ai été très marquée aussi par des prêtres qui m'ont permis aussi de m'orienter à des moments clés de ma vie, de prendre des bonnes décisions, de repérer les lieux où j'étais heureuse de me donner. Ça m'a permis de choisir mon métier ensuite. Donc vraiment, oui, je pense qu'il y a aussi un remerciement, une gratitude quand même de beaucoup de jeunes vis-à-vis de tous ces prêtres qui les ont marqués à des moments clés de leur vie.
C'est presque le mot de la fin, Elisabeth, mais la fin, nous la réservons à Samuel Michael Biaga. J'avais lu quelques mots que vous aviez envoyés à RFI dans le cadre de l'appel à témoins pour cette émission « Réparons l'Église ». Alors, vous dites « L'Église n'a pas besoin de réparation, elle a besoin d'être restaurée ». Qu'est-ce que vous entendez par là en quelques mots, hein, c'est le mot de la fin que l'on vous réserve, Samuel Michael.
Oui, j'entends par réparation quelque chose qui a été endommagé et il faut des pièces de rechange.
Ah, c'est pas mal, ça c'est bien. Un bon garage, quoi.
Oui, et Dieu a donné pour l'Église, c'est-à-dire des instructions immuables, qu'il faut tout juste rentrer dans la parole de Dieu, voir ce qu'il faut appliquer en termes de doctrine et d'organisation. Lorsque je suivais l'émission tout à l'heure, on a parlé d'autocensure, on a parlé de célibat des prêtres. Moi, je pense que, en ce qui concerne l'Église catholique, ce célibat des prêtres n'a aucune, c'est-à-dire, base scripturaire. Et ça fait que, lorsqu'on doit adapter des pièces dans l'Église, ça va donner ce qu'on appelle le catholicisme, et plus tard, ça va donner le mouvement de réforme, et encore plus tard, ça va donner ce qu'on appelle le mouvement de réveil aujourd'hui. Nous serons dans une sorte d'amalgame où personne, où les gens ne savent même pas ce qu'il faut faire. Et c'est pour cela que j'avais dit que l'Église n'a pas besoin de réparation, a juste besoin de rentrer dans la parole et de voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce que j'ai appelé la restauration.
Pour résumer vos mots, Samuel Michael, donc si je comprends bien, c'est retour à l'Évangile et aux Écritures, c'est cela ?
Tout à fait.
Voilà, et pour le célibat, est-ce que vous estimez que le célibat, effectivement, qui a été décidé sur le tard, doit être maintenu ou pas maintenu ?
L'apôtre Paul disait dans une de ses lettres à Timothée que ceux qui imposent le célibat au sein de l'Église, ça c'est une doctrine des démons. Donc, comment est-ce qu'un prêtre ne doit pas se marier ?
Pour vous, c'est ça. Vous êtes pour le mariage des prêtres. C'est au-delà de la réparation, c'est effectivement une réforme, là, Samuel.
Même pas une réforme, mais une restauration. C'est-à-dire revenir à l'Église du premier siècle.
Ah, d'accord. Une restauration. Pour vous, c'est revenir à l'Église des origines. C'est bien cela ?
Tout à fait.
Je vous remercie, Samuel, Michael. Merci d'avoir été en ligne. Merci d'avoir suivi cette émission. Et merci de nous avoir contactés dans le cadre donc de cette émission Réparons l'Église, une émission donc avec nos invités, je le rappelle, Guillaume Goubert, directeur de La Croix, Samuel Lieven, directeur de la rédaction du magazine Le Pèlerin qui inaugure cette semaine une nouvelle formule, et puis Elisabeth qui nous a fait la joie d'être parmi nous, d'avoir pris sur son temps de travail pour être dans ce studio. C'est la fin de Religion du Monde. Cette émission était préparée par Sinatou Saka et puis à la réalisation, Ludivine Amado. À dimanche prochain. Bonne semaine à tous.